Notre bon Père Céleste, merci de ce que tu es un Dieu qui parle, un Dieu qui s'est révélé en Jésus-Christ de manière suprême. Et notre Père, nous voulons te demander ce matin, nous voulons te demander de nous enseigner. Nous avons besoin de ton enseignement. Nous avons besoin de voir clair, de te voir. Nos cœurs ont besoin de te voir, de te comprendre, d'avoir une vision renouvelé, élargi de ta grandeur, de ta splendeur. Père, nous voulons te demander vraiment de nous nourrir ce matin par cette parole. Nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen. Daniel chapitre 5. Le roi Belshazzar donna un grand festin à ses hauts fonctionnaires, au nombre de 10 000, et il but du vin en leur présence. Sous l'effet du vin, Belshazzar ordonna que l'on apporte les coupes en or et en argent que son prédécesseur, Nabuchodonosor, avait enlevées du temple de Jérusalem. C'était afin que le roi et ses hauts fonctionnaires, ainsi que ses femmes et ses concubines, s'en servent pour boire. On apporta alors les coupes en or qui avaient été enlevées du temple de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi, ses hauts fonctionnaires, ses femmes et ses concubines les utilisèrent pour boire. Ils burent du vin et célébrèrent les dieux en or, en argent, en bronze, en fer, en bois et en pierre. À ce moment-là apparurent les doigts d'une main humaine et ils écrivèrent devant le chandelier sur le plâtre du mur du palais royal. Le roi vit cette partie de main qui écrivait. Il changea alors de couleur, terrifié par ses pensées. Les jointures de ses hanches se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force de faire venir les astrologues, les prêtres chaldéens et les devins. Puis, prenant la parole, il dit aux sages de Babylone, « Celui qui lira cette inscription et m'en révélera l'explication sera habillé de pourpre, portera un collier en or à son cou et aura la troisième place dans le gouvernement du royaume. » Tous les sages du roi entrèrent, mais ils furent incapables de lire l'inscription et d'en faire connaître l'explication au roi. Le roi Belshazzar fut alors très effrayé et changea de couleur. Et ses hauts fonctionnaires furent consternés. Alertée par les paroles du roi et de ses hauts fonctionnaires, la reine entra dans la salle du festin et dit, « Roi, puisses-tu vivre toujours? Ne te laisse pas terrifier par tes pensées et ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Déjà à l'époque de ton prédécesseur, on a trouvé chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi, le roi Nabuchodonosor l'a désigné chef suprême des magiciens, des astrologues, des prêtres chaldéens et des devins. C'est ce qu'a fait ton prédécesseur sur le trône. En effet, on a trouvé chez lui, chez Daniel, appelé Belshazzar, par le roi, un esprit supérieur de la connaissance et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les rêves, d'expliquer les énigmes et de résoudre des questions difficiles. Que Daniel soit donc convoqué et y révélera l'explication. Alors Daniel fut conduit devant le roi. Le roi s'adressa à lui, « Es-tu Daniel, l'un des exilés de Juda, que mon prédécesseur sur le trône a fait venir de Juda ?» J'ai appris à ton sujet que tu as en toi l'esprit des dieux et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. On vient d'amener devant moi les sages et les astrologues afin qu'ils lisent cette inscription et m'en fassent connaître l'explication, mais ils n'ont pas été capables de révéler l'explication des mots. J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette inscription et m'en faire connaître l'explication, tu seras habillé de pourpre. Tu porteras un collier en or à ton cou et tu auras la troisième place dans le gouvernement du royaume. » Daniel répondit devant le roi, « Garde tes dents pour toi et accorde tes récompenses à un autre. Je lirai néanmoins l'inscription au roi et je lui en ferai connaître l'explication. » Roi, le Dieu Très-Haut avait donné à ton prédécesseur Nabuchodonosor la royauté, la grandeur, la gloire et la majesté. à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue tremblaient et avaient peur devant lui. Le roi faisait mourir ceux qui voulaient et laissait la vie à ceux qui voulaient. Il donnait une position élevée à ceux qui voulaient et abaissait ceux qui voulaient. Cependant, lorsque son cœur s'est rempli d'orgueil et que son esprit s'est obstiné jusqu'à l'arrogance, il a été précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il a été chassé du milieu des hommes. Son cœur est devenu semblable à celui des bêtes. Il a habité avec les ânes sauvages. On lui a donné de l'herbe à manger, comme aux bœufs, et son corps a été trempé de la rosée du ciel, et ce jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le Dieu très haut domine sur toute royauté humaine et la donne à qui il le désire. Et toi, Belshazzar, son successeur, tu n'as pas humilié ton cœur, alors que tu savais tout cela. C'est contre le Seigneur du ciel que tu t'es dressé. Tu as fait apporter devant toi les coupes de son temple, et vous les avez utilisées pour boire du vin, toi et tes hauts fonctionnaires, ainsi que tes femmes et tes concubines. Tu as célébré les dieux en argent, en or, en bronze, en fer, en bois et en pierre qui ne voient pas, qui n'entendent pas et qui ne savent rien. Et tu n'as pas donné gloire au Dieu qui tient dans sa main ton souffle et tous tes chemins. C'est pourquoi il a envoyé cette partie de main qui a tracé cette inscription. Voici l'inscription qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a fait les comptes de ton règne et y a mis fin. Pesez, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisez, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt, Belshazzar ordonna qu'on habille Daniel de pourpre et qu'on lui mette au cou un collier en or et qu'on proclame qu'il aurait la troisième place dans le gouvernement du royaume. La même nuit, Belshazzar, le roi des Babyloniens, fut tué. Darius le Mède s'empara du royaume à l'âge de 62 ans. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Alors, je suis en train de lire un livre que Priscilla, ma femme, a offert pour Noël. Il s'agit de l'autobiographie du capitaine Winters. Capitaine Winters, c'est le héros d'une série télévisée qui s'appelle Frères d'armes. Une série qui raconte l'histoire vraie d'une compagnie de soldats de la 101e division aéroportée américaine, des parachutistes. Et cette compagnie a fait plusieurs grandes batailles dans la Deuxième Guerre mondiale. Elle a été parachutée derrière les lignes la veille du jour J en Normandie. Elle a participé à une grande opération aux Pays-Bas, qui n'a pas très bien marché d'ailleurs. Elle a été encerclée à Bastogne en Belgique, mais elle a tenu bon. Elle a participé à la libération d'Alsace. Et finalement, elle a même capturé la maison dans les Alpes d'Hitler, en Bavière. Et c'est un récit extraordinaire qui raconte la guerre, ses batailles du point de vue d'un soldat sur le terrain. Aussi du point de vue d'un capitaine qui a su gagner et garder le respect de ses hommes. Alors le jour J en Normandie, c'était le début de leur guerre. Mais en quelque sorte, cette bataille-là, même s'il y en avait d'autres à venir, et peut-être Bastogne a été encore plus dure. Cette bataille-là était la bataille décisive qu'il fallait à tout prix remporter. Et j'imagine que dans la tête des soldats allemands, que cette bataille remportée a dû être le début de la fin, le début de la fin de cette guerre. En quelque sorte, il y avait une inscription écrite sur le mur, peut-être sur le ciel de Normandie. L'écriture était sur le mur, en quelque sorte. L'écriture est sur le mur. Ça, c'est en anglais une expression, voilà, l'écriture est sur le mur. Et c'est très connu, c'est peut-être finalement le verset le plus connu de la Bible en anglais. quoique je ne sais pas en tout cas, mais l'écriture est sur le mur. Ça veut dire que la fin est imminente, que les choses sont irréversibles. En bon français, ça donne la messe est dite. La messe est dite. Et ça, c'est ce qu'on voit dans ce passage. L'écriture est sur le mur pour le roi Belshazzar. La fin est imminente. Les choses sont irréversibles. C'en est fini de lui. La messe est dite. Le message archi-clair de ce passage concerne le jugement de Dieu. On va y découvrir un Dieu souverain qui abaisse, qui juge, qui condamne, et ça de manière définitive, finale, l'orgueilleux. Notre message ce matin est un message sombre. Mais on va voir, ne serait-ce que par le fait de la voix entre nos mains, que c'est une grâce, que c'est un message de grâce. C'est en fait la preuve de la bienveillance de notre Dieu. On va voir que ce message nous concerne tous. Nous avons vu ces dernières semaines comment le royaume de Babylone est à plein d'égards représentatif de l'humanité, l'humanité dans sa rébellion à l'égard de Dieu, à l'égard de son Créateur, qui a pourtant dans sa main notre prochain souffle. Alors qui c'était ce roi Belshazzar? En fait, on ne sait pas grand-chose de lui. Il était très probablement le fils du dernier roi de Babylone, à savoir le roi Nabonide. Et Belshazzar était sans doute son régent. Il a gouverné pour son père, à la place de son père, lors du vivant de son père. Et c'est pour ça probablement que Belshazzar parle de la troisième place dans son royaume, après la place de son père, après sa propre place, et finalement la troisième. Il n'était pas un descendant direct, donc ce n'était pas le fils de Nabuchodonosor. On voit dans cette traduction de la Bible, on parle de successeur, de prédécesseur. Dans le texte, c'est père et fils. Mais sans doute, il y a plusieurs générations qui sont passées. Et notre passage commence de manière assez brutale, tout de suite avec Belshazzar. Nabuchodonosor a disparu de ce récit. Et on ne sait pas trop ce qui s'est passé entre-temps. Alors Daniel, c'était quand même un historien. Ce qu'on a entre nos mains, c'est un récit historique. Mais le but de ce récit n'est pas tant de nous donner tous les détails exhaustifs de l'histoire. Mais Daniel nous raconte ces histoires, ces récits, pour nous aider en tant que croyants à chanter le cantique de l'Éternel en terre étrangère. Il a appuyé sur le bouton avance rapide. On arrive ici au récit de Belshazzar. Et Daniel est venu parler de ce roi, mais surtout il est venu parler de Dieu. Il est venu parler de notre Dieu. Et la première chose qu'on va voir ce matin, c'est un procès. Daniel nous invite à assister au procès de Belshazzar devant la cour d'assises, en quelque sorte, de l'Éternel. Et ensuite, dans un deuxième temps, on va voir que le jugement de Dieu, le jugement de l'Éternel, est sans appel. Et finalement, on va réfléchir à ce que ces avertissements veulent dire pour nous, la signification de ces choses pour nous 2600 ans plus tard. En effet, on peut prendre au sérieux cet avertissement. Alors d'abord, le procès de Belshazzar devant le cour d'assises de l'Éternel. On voit que Belshazzar a peur. On voit qu'il a tellement peur qu'il change de couleur. Il a vu une main étrange écrire des choses, des paroles sur un mur et soupçonne bien sûr que ça n'augure rien de bon pour lui. Comme pour Nabuchodonosor qu'on a vu dans les passages précédents. Nos destins peuvent changer, basculer dans un instant. Alors Belshazzar faisait la fête, mais dans un instant, son monde, sa vie a été mise sens dessous. Le roi puissant de Babylone est finalement bien fragile. Et nous sommes tous fragiles. Même les présidents, même les rois, même les premiers ministres, même les hommes d'affaires fortunés, on est tous fragiles. Henri IV a été lâchement assassiné. John F. Kennedy a eu une fin brutale, précipitée. Steve Jobs, le patron adulé d'Apple, a été emporté par un cancer. On est faible. Même les grands de ce monde. Belshazzar est un homme qui fait pitié. Alors nous voyons ici comment encore une fois, ces magiciens, ces hommes religieux lui font faux bond. Ils ne sont pas à la hauteur. La religion païenne est en échec. C'est la faillite de la religion de son époque. Elle n'arrive pas à révéler ce que Dieu veut dire. Elle est muette. On trouve un écho de cette faillite dans la religion de notre époque, de notre culture. L'humanisme athée chante un cantique, un hymne à la gloire de l'homme. Mais cet humanisme athée ne voit rien venir. Il est aveugle, il s'est bouché les oreilles pour ne pas entendre. Alors on voit dans le texte que heureusement il y a la reine qui se souvient de Daniel. Cet homme rempli de l'esprit, cet homme qui peut révéler les mystères de Dieu, cet homme qui connaît son Dieu, qui connaît l'Éternel, qui connaît le Créateur de l'univers. On voit que c'est un homme dépourvu de tromperies, désintéressé. Il ne le fait pas pour l'argent. En quelque sorte, il est l'exemple type d'un ministre, d'un chrétien fidèle à l'Évangile. Alors cette reine, c'était probablement la reine-mère, ou peut-être la grand-mère du roi de Belshazzar. À partir du verset 17, après avoir fait venir Daniel à la suite de la demande de la reine, nous avons le discours de Daniel devant le roi. Et en quelque sorte, Belshazzar est maintenant devant le cour d'assises de l'Éternel. Quand j'étais adolescent, de temps en temps avec mon père, on faisait des sorties ensemble, c'était très bien. Une fois, on est allé voir la bourse de Londres à la cité. À cette époque-là, il y avait plein de traders, de courtiers qui couraient à droite à gauche avec des vestes, avec des couleurs criardes. Et une autre fois, il faisait ça, je pense, une fois par an, on est allé assister à un procès. Un procès dans une cour prestigieuse de Londres. Et c'était une expérience. Il y avait le juge devant, habillé en noir. Il portait une perruque, ça c'est ce qui se fait en Angleterre. Il y avait bien sûr le procureur. Il y avait l'accusé aussi, je me souviens de quelques détails, c'est un monsieur qui avait volé de l'or et qui l'avait fait fondre. Et nous, on était dans le balcon, on était le public dans le balcon, et il fallait être super silencieux. Il y avait une ambiance. Et ici, dans ce passage, nous assistons, bouche bée, au procès de ce roi, devant le cour d'assises de l'Éternel. Alors avant de parler de l'accusation précise, Daniel, qui est un peu comme le procureur, commence en rappelant le passé. Alors, est-ce que vous voyez ça au verset 18? « Roi, le Dieu très haut avait donné à ton prédécesseur, Nebuchadnezzar, la royauté, la grandeur, la gloire et la majesté. » Donc, il rappelle la splendeur de son grand-père ou son arrière-grand-père. Il rappelle la splendeur de son régime, mais ensuite ce qui lui est arrivé. Donc versets 20 et 21. Cependant, lorsque son cœur s'est rempli d'orgueil et que son esprit s'est obstiné jusqu'à l'arrogance, il a été précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il a été chassé du milieu des hommes. Son cœur est devenu semblable à celui des bêtes. Il a habité avec les ânes sauvages. On lui a donné de l'herbe à manger comme aux bœufs, et son corps a été trempé de la rosée du ciel, et ce jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le Dieu très haut domine sur toute royauté humaine et la donne à qui il le désire. Daniel parle du passé, parce que Belshazzar a oublié le passé. Je ne peux pas imaginer qu'une telle histoire n'avait pas été racontée à Belshazzar. Je pense que chaque famille a des histoires d'un grand-père, d'un arrière-grand-père qui a fait quelque chose d'extraordinaire ou qui quelque chose lui est arrivé. En tout cas, on voit bien qu'il savait, qu'il connaissait cette histoire. Et Belshazzar n'avait pas pris au sérieux cet avertissement. En fait, Dieu avait été bienveillant à son égard, parce qu'il lui avait donné un héritage, une famille qui avait fait la connaissance de l'Éternel, une famille qui avait expérimenté la grâce. Mais Belshazzar a choisi, peut-être Simon, de simplement mettre de côté ce saint héritage, cet apport familial. La reine, par contre, ne l'avait pas oublié. Mais lui, Belshazzar, lui, était devenu dur. Il avait choisi en quelque sorte de ne plus se souvenir de ce qu'il avait appris à l'école du dimanche, en quelque sorte, au catéchisme. Mais Daniel choisit, et il ne devait pas le faire, il l'a fait vraiment de son propre chef, il a choisi de lui raconter le passé pour montrer à ce roi qu'il était un sot, un insensé. Et ensuite, il commence pour de vrai, pour de bon, au verset 22, l'accusation. Et toi, Belshazzar, son successeur, tu n'as pas humilié ton cœur, alors que tu savais tout cela. Et dans les versets suivants, c'est vraiment le procureur qui parle, c'est tout le temps toi, toi, toi. Et on voit que Daniel n'y va pas par quatre chemins. Tu t'es dressé contre l'Éternel. Tu as fait apporter devant toi les coupes de son temple. Vous les avez utilisées pour boire du vin, toi et tes fonctionnaires, ainsi que tes femmes et tes concubines. Tu as célébré les dieux en argent, en or, en bronze. Tu n'as pas donné gloire au Dieu qui tient dans sa main ton souffle et tous tes chemins. C'est un peu comme cette histoire, le récit qui concerne Nathan et David. Et Nathan qui a dit à la fin de sa parabole, « Cet homme, c'est toi. » Et l'accusation est vraiment accablante. On voit que la charge est claire comme de l'eau de roche. C'est la haute trahison. Alors Belshazzar n'était pas un juif, il ne faisait pas partie du peuple de Dieu. Pourtant Dieu... Son Dieu, parce qu'il est son créateur, l'appelle à la barre. Alors, qu'est-ce qu'il a fait au juste? Il est accusé d'arrogance et d'idolâtrie. On voit déjà son arrogance au début du passage, dans les premiers versets de ce chapitre. Il faisait la fête. Il faisait la fête même quand il y avait des armées étrangères à la porte de la ville. Pire, de manière consciente, de manière délibérée, il a fait venir les ustensiles du temple de Jérusalem pour s'en servir pour sa fête, pour célébrer d'autres dieux, des faux dieux, des dieux en or, en bronze, des dieux qui ne parlent pas, qui n'entendent pas, des dieux un peu bidons, des dieux qui ne peuvent pas sauver. Son arrogance est claire. Il se fiche royalement de l'Éternel. En fait, il vit dans son monde comme si son monde, le monde, n'appartenait pas à Dieu. Il vit dans son monde sans égard pour lui. Il piétine ce qui lui est sacré pour manifester délibérément sa haine, son mépris. Il a reçu un héritage de par Nebuchadnezzar, mais il s'est bouché les oreilles. Et le verset 23 est vraiment à couper le souffle. Tu n'as pas donné gloire au Dieu qui tient dans sa main ton souffle et tous tes chemins. Cette gloire, il l'a donnée au faux Dieu, il l'a donnée à lui-même aussi. Et je pense que cette phrase, ce verset 23, devrait nous réduire tous au silence. Elle nous montre de manière on ne peut plus convaincante la vérité que l'apôtre Paul expliquait dans sa lettre à l'église de Rome. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Parce qu'aucun homme ne donne toute la gloire à l'Éternel, cette gloire qui lui est due. Nous avons tous vécu dans ce monde comme si nous étions nous-mêmes le centre de ce monde. Pourtant, non, c'est Dieu, le Créateur, qui est le centre de l'univers. Il est celui à qui nous devons toute obéissance, toute gloire, toute louange. Alors ça, on a parfois du mal à comprendre, on a du mal à voir ça, parce que en fait, on ne voit pas la grandeur de Dieu. On a du mal à voir sa splendeur, sa puissance, sa bienveillance. On a tendance à le réduire à un petit Dieu ou à un Dieu qui n'existe pas. Et du coup, notre comportement nous semble normal, raisonnable, compréhensible, même éclairé. Et de toute façon, c'est ce que les autres font. Mais c'est parce que nous ne connaissons pas le vrai Dieu, le Créateur, celui qui est saint, celui qui est bienveillant, celui qui est le souverain juge de chacun de nous. Alors l'idée d'un Dieu qui juge ne passe pas comme une lettre à la poste de nos jours dans notre culture. On en a cure. On n'y croit pas. On est blasé. C'est parce qu'on a oublié l'Évangile. Pourtant, la Bible est très claire. Depuis les premières pages, dans le Jardin d'Éden, Dieu vient chercher Adam et Ève qui sont en train de se cacher. Ils vont être exclus de la présence de l'Éternel. Un peu plus loin dans l'Ancien Testament, le Pharaon en Égypte s'entête et résiste à l'Éternel avant d'être jugé. Et le peuple de Dieu qui, dans ce passage, se trouve en exil, a été condamné, jugé. Et Jésus, dans le Nouveau Testament, nous avertit à maintes reprises qu'il y a un jugement à venir, que l'enfer existe. Et le dernier livre de la Bible en parle. L'Apocalypse, il y a un jugement dernier. Et par grâce, Dieu veut que nous voyions ce matin, avant l'heure, avant que ce soit trop tard, à quoi cet événement va ressembler. On voit dans la prochaine section donc, que son jugement est sans appel. Nous sommes à notre deuxième point pour ce matin. Son jugement est sans appel. Pour Belshazzar, la messe est dite. L'écriture est sur le mur. Et Daniel ne tourne pas autour du pot. Alors, contrairement à ce qu'il a dit à Nabucodonosor, ici, Daniel ne parle pas de repentance. Il n'évoque pas la possibilité de changer et de ne pas subir la colère de Dieu. Non, cette fois-ci, l'écriture est sur le mur. La messe est dite. Et on est censé contraster Nabucodonosor et Belshazzar. Daniel a écrit, a agencé ses récits pour qu'on contraste les deux, pour qu'on les compare. Dieu avait donné du temps à Nabucodonosor. Et ensuite, dans sa grâce souveraine, on l'a vu la semaine dernière, il a restauré sa raison. Il lui a donné de se repentir. Il lui a même restauré la royauté. Mais avec Belshazzar, il n'y a rien de tout ça. On peut se poser la question, est-ce qu'il n'est plus bienveillant? Si. Il est bienveillant. Parce que Belshazzar savait ces choses. Il savait ces choses. Mais il s'est entêté. Il connaissait l'histoire de la bienveillance de Dieu. Mais il a balayé d'un revers de main. Pire, il a piétiné. Alors, il n'y aura pas de procès en appel. Il n'y aura pas de révision de la peine, pas de commutation. L'écriture est sur le mur. Pour lui, les choses sont irréversibles. On l'a vu la semaine dernière, le message, le Dieu souverain abaisse qui il veut. Il abaisse l'orgueilleux. Alors, qu'est-ce qui est écrit sur le mur? Le verset 25 nous dit, alors dans une autre traduction, on lit, l'écriture tracée, c'est Méné, Méné, Tekel et Parsine. Ce qui donne, dans notre traduction, dans la Bible blanche, voici l'écriture qui a été tracée, comptée, comptée, pesée et divisée. Et on lit, voici l'explication de ces mots comptés. Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pesé, tu as-tu pesé dans la balance et tu as-tu trouvé léger, divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Et ça, c'est ce qui s'est passé. Les derniers versets de notre passage nous l'annoncent de manière sobre. Cette même nuit, Belshazzar, roi des Babyloniens, fut tué. Et Darius le Mède s'empara du royaume à l'âge de 62 ans. Le jugement de Dieu est sans appel. Notre Dieu est souverain et son jugement s'accomplit. Alors Jésus a illustré ce point en parlant d'une parabole, en donnant une parabole qui parle d'un agriculteur insensé. On lit dans l'évangile de Luc, Jésus leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même disant, que ferais-je, car je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Le jugement de Dieu est sans appel, parce que notre Dieu est souverain et son jugement s'accomplit. Alors, il est temps de passer à l'application et d'appliquer cet avertissement solennel. Et dans un sens, je pense que l'application est déjà claire et sans doute on a déjà commencé à l'appliquer à nos cœurs. Déjà commencé à voir la pertinence pour nous-mêmes, mais aussi pour nos amis, pour les membres de nos familles, pour nos collègues, pour tous. Comme au chapitre 2, le chapitre 5 met en avant le fait que Dieu est un Dieu qui révèle, qui parle et qui révèle la signification des choses. Au chapitre 2, on a vu un rêve expliqué. Au chapitre 5, c'est des paroles écrites sur un mur. Dieu, dans sa bienveillance, le Dieu souverain de l'univers, révèle à l'avance qu'il va juger les orgueilleux. Il annonce à l'avance qu'il va juger ceux qui s'opposent à lui. Ceux qui ne veulent pas de lui, qui ne veulent pas de son règne. C'est une grâce qui révèle ces choses à l'avance. Sur les pages du Nouveau Testament, le message n'est pas très différent. Le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le même Dieu que le Dieu du Nouveau Testament. Dans sa bienveillance, il révèle d'une manière encore plus parfaite, d'une manière encore plus bienveillante, qu'il va juger chaque homme, chaque femme. Et que son jugement sera sans appel. Ce thème du jugement souverain de Dieu devient très très clair en Jésus-Christ. Jésus a dit à ses disciples que le Père lui a confié tout jugement. C'est dans l'évangile de Jean chapitre 5. Et on sait qu'il jugera tout homme lorsqu'il revient à son retour. On sait qu'il reviendra comme un voleur dans la nuit, de manière inattendue. Alors pour les lecteurs de ce passage qui, dans leur quotidien, font face à des hommes, un peu comme Belshazzar, des hommes qui méprisent Dieu et qui méprisent son peuple, on a prié pour des chrétiens comme ça ce matin. Je pense que dans ce passage, il y a quelque chose de réconfortant. Dieu va faire justice et son jugement sera sans appel. Jésus aura le dernier mot. On voit dans le Nouveau Testament que Dieu prend très au sérieux, très très au sérieux, le jugement. Et le signe qu'il nous donne de son sérieux dans le Nouveau Testament, c'est la croix. C'est là que Jésus a été condamné. C'est là que Jésus a subi la peine que notre trahison mérite. Là, sur la croix, c'est un peu le jugement dernier avant l'heure. Sauf que ce jugement tombe sur Jésus. Le Dieu qui est amour prend tellement au sérieux le jugement, son jugement, qu'il a même donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais échappe de manière juste à son jugement. Dieu est juste, il ne veut pas tout simplement balayer notre trahison comme si elle n'avait jamais eu lieu. Mais puisqu'il est juste, il a satisfait sa propre justice. Comment ? En donnant son Fils, en donnant Jésus, qui a pris sur lui la colère de Dieu, qui a pris avant l'heure le jugement dernier de tous ceux qui se fient à lui. Et ça, c'est le message de la grâce, c'est le message de la bienveillance. C'est le message que nous avons besoin de retenir, de ne jamais oublier, comme Belshazzar a oublié la bienveillance de Dieu à l'égard de Nebuchadnezzar. L'apôtre Pierre, dans sa deuxième lettre, nous dit que finalement, on est souvent enclin à l'oubli. On oublie cette bienveillance. Et cet oubli se manifeste dans notre attitude désinvolte. Elle se manifeste en notre laisser-aller moral. On commence à jouer avec Dieu. Nous voulons la grâce pour enfin vivre comme si Dieu allait simplement tolérer notre péché, notre désobéissance. Comme si un peu de péché ici et là n'est pas trop grave, sans conséquence. Mais le Nouveau Testament nous dit de manière claire qu'on ne peut pas jouer avec Dieu, que Dieu n'est pas dupe. Dans l'Épître aux Galates, on lit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Et l'Épître aux Hébreux nous avertit de manière très claire en disant « Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement. » Et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Et parfois, en tant que croyant, on a quand même besoin d'entendre de tels avertissements. Mais le chrétien sincère va revenir au pied de la croix. Il va se souvenir de la bonté de Dieu, de sa bienveillance. Il ne va pas, comme Belshazzar, s'endurcir, s'entêter, mais mu par la bienveillance de Dieu en Christ. Il va revenir dans la repentance et dans la foi. Comme on l'a chanté tout à l'heure, sans rien à nous, sinon le sang de Jésus versé à la croix. Alors peut-être que vous n'êtes pas un disciple de Jésus-Christ et vous savez que jusqu'à maintenant, vous n'avez pas encore fléchi le genou devant Jésus, devant le Seigneur. Alors c'est vrai, ce passage est un passage très dur, mais ô combien bienveillant, parce que dans ce passage, Dieu nous avertit avant l'heure, avant que ce soit trop tard. Alors le fait de ne pas suivre Jésus, celui que Dieu a déclaré son roi, celui à qui Dieu a confié tout jugement, c'est finalement vivre dans son monde sans lui. Sans flasher le genou devant lui. C'est un peu comme si on utilisait ses ustensiles, ce qui lui est sacré, sans lui donner l'honneur et la gloire. Il n'est pas trop tard pour vous de vous agenouiller devant Jésus, le roi qui va juger tout homme, toute femme, mais le roi en qui on peut trouver un refuge. Un refuge parce que dans son amour, il a pris la peine pour son peuple. Pour que son peuple puisse connaître de manière juste, de manière légitime, de manière sainte, cette amitié permanente, cette paix permanente avec Dieu. Ne tardez pas. Un jour, ce sera trop tard. L'écriture sera sur le mur. La messe sera dite. Alors, personne ne connaît le nombre de ces jours sur la terre. Message clair de ce passage, c'est que le Dieu souverain abaissera de manière définitive l'orgueil de l'homme et son jugement sera sans appel. N'oubliez pas ce message de bienveillance divine, mais venez de manière simple devant Dieu dans la prière et implorez sa grâce. implorer son pardon. Non, en vertu de ce que vous auriez fait, votre performance morale, personne n'est à la hauteur de Dieu. Mais simplement en vertu du sacrifice de Jésus. Alors on peut venir devant lui, simplement en s'accrochant à Jésus, notre roi, notre Seigneur, qui est notre refuge. Je vous invite à la prière. Prions. Notre bon Père Céleste, merci de ce que dans ta bienveillance, tu annonces à l'avance que le mal sera puni, que la justice sera faite. Et Père, nous avons besoin de la justice. Ce monde, l'injustice qu'on voit autour de nous nous chagrine et nous avons besoin de ta justice. Mais merci d'avoir nous avons averti à l'avance que cette justice nous concerne tous. Et Père, nous voulons venir devant toi ce matin, les mains vides, en nous accrochant à Jésus seul, à son sang versé pour nous à la croix. On ne peut pas venir devant toi avec nos mérites, avec ce qu'on a fait nous. On est aussi arrogant, aussi orgueilleux que Belshazzar. En quelque sorte, on a notre tendance naturelle, c'est de vivre dans ce monde comme si ce monde nous appartenait et ne t'appartenait pas. Et nous voulons te dire pardon et nous accrocher à Jésus seul. Merci pour ta grâce, merci pour ta bienveillance. Nous te demandons ces choses au nom de Jésus. Amen.